Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages, au micro Christian Delors. Nous avons un invité qui est déjà venu à notre micro il y a quelque temps. Il s'agit de Alain Artus. Bonjour Alain.
Bonjour monsieur.
Merci de revenir ici pour parler d'un livre important, puisque c'est un livre sur Marc Bernard, dont un certain nombre de gens savent que c'est une personnalité nîmoise importante, puisqu'elle a obtenu le prix Goncourt. Et vous avez tenu à raconter, à faire la biographie de Marc Bernard. Alors, il faut préciser que vous l'avez écrit, pas deux fois, mais c'est une réédition. Vous avez déjà publié ce livre en 2013, je crois.
Oui,
2013. Et avec un titre légèrement différent, puisque à l'époque, c'était Marc Bernard, le goût de la vie. Et aujourd'hui, c'est Marc Bernard, tout est bien ainsi. Alors, la plupart du contenu est le même que la première édition, mais dans cette édition, vous l'avez augmenté en parlant des rapports, des relations entre deux Nîmois importants et qui ont vécu après la même période, Jean Pauléon et donc Marc Bernard, qui se sont bien connus et qui se sont appréciés, qui ont eu peut-être aussi des moments de conflit, mais voilà, vous avez tenu à préciser cela dans cette réédition. Livre qui est publié tout récemment, celui-là, en octobre 2024, je crois, aux éditions La Voix Domitienne. La Voix Domitienne, nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises de livres publiés par cette maison qui est tout à fait intéressante. Donc, bienvenue Alain, dans notre studio, à ce micro, pour parler de ce livre, parler de Marc Bernard, peut-être compléter un certain nombre de choses que vous n'avez peut-être pas pu dire. Mais avant cela, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez quelle mouche vous a piqué pour écrire une biographie sur ce monsieur. Comment est venu le processus de parce que vous n'avez pas écrit des romans, vous avez fait une autre biographie importante qu'il faut rappeler quand même, celle de Léo Larguet, dont vous avez eu l'occasion de parler ici même il y a un peu plus d'un an, je crois. Une très belle biographie aussi d'un personnage passionnant né à La Grand-Combe. Mais là, qu'est-ce qui pousse une personne comme vous à écrire des biographies?
Bien, disons que j'avais envie, en effet, d'écrire. L'écriture me tentait, mais bon, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour créer une fiction. Donc, avec une biographie, on a déjà une matière, hein, on a la vie de quelqu'un. Ensuite, on a pour un écrivain, on a son œuvre, dont on va retrouver cette vie, on va la retrouver dans des documents que l'on cherchera, que l'on pourra trouver, et on va aussi la trouver dans son œuvre écrite. Hein, l'œuvre écrite d'un écrivain reflète aussi sa vie, son existence. Un écrivain vit souvent pour l'écriture. Hein, c'est ce qui le fait vivre. N'ayant pas l'imagination suffisante pour créer une fiction, je me suis plutôt dirigé vers l'écriture biographique. Et Marc Bernard, j'ai rencontré son œuvre, puisque j'aurais pu le connaître, évidemment. Il est décédé en 83, j'ai pu le croiser à Nîmes. Mais je ne le connaissais pas, mais mes professeurs au lycée ne m'avaient jamais parlé de Marc Bernard. Et un jour, étant à Nîmes, j'avais 32 ans, ça qui est quand même ce qui fait un peu tard pour le connaître. Chez un libraire, j'ai trouvé une réédition, dans une édition de poche, du roman de Marc Bernard, Paris à des enfants, où il raconte son enfance. Dans ce livre, il y avait une jolie photo d'enfant sur la couverture, ça m'a attiré. J'ai regardé la quatrième de page et je me suis aperçu que c'était un écrivain nîmois, puis bon, ils indiquaient qui était Marc Bernard. Donc j'ai acheté aussitôt le livre, ça m'a intéressé, je l'ai lu. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un excellent écrivain, quoi. Il raconte son enfance d'une façon vraiment merveilleuse. Il accroche le lecteur. Donc, à partir de là, j'ai continué à lire des livres de Marc Bernard.
Il y avait marqué qu'il avait eu le prix Goncourt pour ce livre-là.
Oui, c'était d'ailleurs, pareil à des enfants, c'était son livre qui avait eu le prix Goncourt.
Oui. Voilà. Alors, souvent, le fruit du hasard.
C'est un peu le fruit du hasard.
Sauf que vous passionnez pour la lecture et pour les écrivains, mais enfin, il aurait pu se faire que ce livre n'ait pas été devant vous ce jour-là. Et...
Oui, voilà. J'aurais peut-être fini par connaître les livres de Marc Bernard, mais... Oui, c'est surtout ce jour-là que je l'ai trouvé.
Alors, j'en profite pour dire d'emblée que c'est un livre, celui-là fait plus de 300 pages, et à la fin, vers la fin du livre, vous avez toute une liste des livres de Marc Bernard. C'est intéressant, on peut revenir des livres qui sont des romans ou des nouvelles. Et là, ce livre dont vous venez de parler, vous l'avez mis dans des récits. L'avez classé dans récits.
Oui,
parce qu'il raconte...
Il raconte son enfance.
C'est pas un roman. Alors peut-être qu'il a romancé un peu, mais...
Oui, c'est possible.
Et puis des essais. Alors vous avez toute la liste de ces livres. Et moi, je faisais remarquer que j'avais été intéressé. J'ai appris en arrivant à Nîmes qu'un certain Marc Bernard avait fait un travail sur la ville de Sarcelles.
Oui.
Et j'avais moi-même habité Sarcelles, donc j'étais intéressé.
Oui.
Et du coup, j'ai regardé un peu ce personnage nîmois qui s'était intéressé à...
C'est-à-dire que c'était dans les années 1967. Le Figaro, le journal Le Figaro, avait demandé à Marc Bernard, il lui avait loué un appartement, l'appartement témoin à Sarcelles.
Oui.
Et il lui avait dit, il avait meublé, il lui avait dit, vous irez vivre pendant 2-3 mois à Sarcelles et vous nous ferez des articles. En connaissant un petit peu le côté un peu révolté de Marc Bernard, il se disait, il va nous faire des articles au vitriol de cette cité dortoir à l'époque. Et puis cette cité qui peut avoir un côté inhumain, a priori. Donc voilà, Marc Bernard a accepté. Il est parti à Sarcelles. Il a pris son logement. Mais Marc Bernard venait d'un petit appartement à Paris qui était insalubre. Il vivait... sous les toits pratiquement et sans commodité. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé à Sarcelles? Un appartement avec du confort, chauffage, salle de bain, puis alors Sarcelles, il y avait tous les commerces utiles qui étaient à proximité, tous les commerces de proximité. Et alors évidemment il en est tombé émerveillé, mais je suis bien ici, je suis dans un bel appartement chauffé, les communautés vivaient en très bonne entente. Que ce soit la communauté juive, le maghrébine, les pieds noirs, il y en avait beaucoup. Tout le monde vivait dans une bonne entente, ça se passait très bien. Et il a fait des articles, je ne dirais pas peut-être dithyrambiques, mais des articles montrant qu'on était bien à Sarcelles, en définitive.
C'est vrai, quand Sarcelles s'est construit, ça a été d'énormes chantiers, c'était compliqué, mais les gens appréciaient effectivement cette nouvelle
Alors série. Évidemment, le Figaro a été déçu. Tiens, mais il nous montre au contraire que c'est presque idyllique, Sarcelles. Alors après, il y a un éditeur qui a repris tous ces articles et qui a dit, on va faire un livre, Sarcellopolis. Voilà, donc tous ces articles sont devenus un livre Sarcellopolis qui est en effet très intéressant.
Voilà pourquoi vous et moi nous intéressons à ce personnage de Marc Bernard. Mais alors, vous dites à juste titre qu'il était, parisien. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement à lui? Il était nîmois aussi. Alors vous-même, vous êtes nîmois, mais lui était un peu nîmois, n'est-ce pas?
Ah oui, oui. Donc il est né à Nîmes. Il restait très attaché à Nîmes.
Oui.
Il est allé à Paris parce que pour faire une carrière d'écrivain, il fallait qu'il soit à Paris, bien sûr. Mais il venait régulièrement à Nîmes. Et puis chaque fois qu'il avait un problème grave. Bon, il a eu des problèmes sentimentaux, il n'en a pas manqué. Problème d'argent, bien sûr, ça, c'est oui. certain. Donc chaque fois qu'il avait un problème sérieux, il venait à Nîmes parce qu'il avait des amis, il était reçu. On pouvait l'héberger, on l'invitait à des repas. Il venait à Nîmes, puis après il repartait à Paris. Donc il est resté toute sa vie très attaché à Nîmes. Et il a écrit une trilogie nîmoise, trois livres, où il montre le peuple nîmois des années 50.
Il a vécu, et à la fin de sa vie, il est venu mourir à Nîmes, si on peut dire.
Oui,
oui. Alors, il faut le situer un peu dans l'histoire. Alors, on a parlé de Sarcelles, et vous avez dit 67, mais le situer un peu dans l'histoire, il est né au début du XXe siècle.
Il est né en 1900, avec le siècle.
1900.
1900. Oui.
Et donc, en même temps, est-ce qu'il n'était pas destiné à l'écriture au départ ?
Non, au départ, il ne savait pas trop. Bon, il a fait des petits métiers. Hein. Il a été... Il a vécu dans les deux numéros, même. Hein. Sa mère est morte. Il a été.
Il était orphelin de père.
Il a orphelin à 13 ans. Bon, sa cousine l'a pris, mais bon, la cousine aussi, ils n'étaient pas très, très argentés. Donc, c'était un poids, disons. Et finalement, un jour, il est parti à Paris. Alors, il avait envie de faire du théâtre. Il avait fait du théâtre, il lisait beaucoup. C'est un autodidacte, bien sûr, il lisait beaucoup. Et il est parti à Paris pour faire du théâtre. Malheureusement, ça a été un échec.
Ouais.
Et à un certain moment, bon, alors après, il est à Paris, il faisait des petits métiers, fraiseur. Et il a écrit un manuscrit. Il a fait apporter par un de ses copains, d'ailleurs, parce que, bon, comme il travaillait, il a dit, tiens, tu m'apporteras ce manuscrit chez Gallimard, à la Nouvelle Revue Française. Et il a été surpris, rapidement, de recevoir un courrier de Jean Paulhan qui lui a dit, mais... Votre manuscrit m'intéresse, et même considérer la Nouvelle Revue Française de Gallimard comme votre maison.
Oui, c'est incroyable. Donc,
c'était miraculeux.
D'emblée, un premier texte.
Et
il tombe sur ce Jean Paulhan,
oui.
Qui était une personnalité, qui avait 15 ans de plus que lui.
Oui, oui,
c'était vraiment... Lui, il était un gamin, pratiquement,
il
avait 25 ans, lui, quand il a commencé à écrire.
Oui, c'était... Il avait 29 ans, quand son premier manuscrit, 29 ans.
Et Jean Paulhan, lui, était une personnalité, déjà.
Ah oui, oui.
Et par hasard, Jean Paulhan a lu ce livre. Il aurait pu ne pas le lire parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de manuscrits. Enfin,
oui,
bref.
Oui.
Et il lui répond ainsi à...
Ah oui.
Et ce respect mutuel a persisté jusqu'à la fin.
Ah oui, oui. Il y a une amitié très, très forte, très profonde amitié jusqu'à la mort de Jean Paulhan. Oui, oui, ils sont restés en contact toujours...
D'où l'intérêt que vous avez porté à cette amitié quand vous écrivez.
Voilà. J'ai pensé, faire en effet un petit texte sur cette amitié.
La littérature de l'amitié.
Qui est à souligner.
Voilà. Oui, oui. Mm. Et qui complète donc la première édition de votre livre.
Voilà.
Peut-être on le situe donc au début du siècle. Il était trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale.
Oui, voilà, c'était juste. Il avait dit, bon, ben 1918, il avait 18 ans.
Oui.
Il aurait pu partir si le conflit, malheureusement, s'était prolongé. Oui. Il savait qu'il faisait partie de la classe suivante, là, qui allait être appelée. Heureusement, ben, le conflit... La paix étant signée, bon, ben, il a évité de partir. Hein.
Mais en revanche, il était adulte au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors là, donc, en effet, il était dans un service d'infirmerie. Donc, il a été à la déclaration de guerre avec l'Allemagne pour le second conflit. Il a été incorporé dans un service d'infirmerie à Marseille. Hein. Mais bon, évidemment, comme il a été assez vite libéré, puisque le maréchal Pétain ensuite a arrêté les hostilités. Donc, il n'est pas resté longtemps incorporé. Il est revenu à son moment à Nîmes. Les appelés ayant été démobilisés.
Évidemment. Mais il avait un engagement littéraire et politique aussi.
Oui, il a été forcément, c'était un prolétaire. Bon,
oui. Il a défendu la
donc,
cause.
Donc, il avait adhéré au Parti communiste, la CGT, bien sûr. Même quand il est arrivé à Paris, il a été tout de suite responsable d'une cellule communiste de Villeneuve-Triage. Il travaillait au chemin de fer, donc vous voyez, on avait dû reconnaître son talent.
Oui.
Pour être tout de suite responsable d'une cellule. Bon, puis ensuite, lorsqu'il a vu ce que devenait la révolution russe, avec Staline,
allez.
Aussitôt, il a dit non, ça ce n'est pas ma révolution. Sa révolution, ce n'était pas une dictature.
Oui,
voilà.
Oui.
Pour ça, il était net. Et autant André Gide, il lui a fallu un certain temps pour réaliser de ce qu'était le stalinisme.
Mm-hmm.
Autant Marc Bernard, qui avait eu des renseignements par des étudiants en philosophie. Vous voyez, il fréquentait, lui qui était fraiseur, qui était ouvrier à Paris, il fréquentait des étudiants en philosophie, dont on devait estimer qu'il avait qu'il était intéressant à fréquenter. Donc il n'avait qu'été allé à Paris, à Moscou, en Russie, et en revenant, il lui avait dit, mais tu sais, avec Staline, ben, ce n'est plus la révolution que l'on souhaitait, ça devient une dictature. Et là, aussitôt, il a rompu avec le communisme. Voilà.
Nous allons faire une petite pause.
Oui, bien sûr.
Et on va passer un morceau de musique que vous aimez, la symphonie pastorale de Beethoven.
Oui, il paraît qu'il aimait, semble-t-il.
Radio Alliance Plus, 103.2 FM à Nîmes. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 09 53 49 85 50. Vous pouvez nous écouter aussi sur votre ordinateur ou par DAB+, cette nouvelle manière d'écouter la radio. Vous êtes toujours dans l'émission Au fil des pages avec Alain Artus, auteur d'un livre, d'une biographie du célèbre Nîmois Marc Bernard. Et ce livre est intitulé « Marc Bernard, tout est bien ainsi ». C'est la réédition d'un premier livre sur Marc Bernard, une édition légèrement augmentée, puisque Alain Artus l'a complété avec un texte sur les amitiés, les relations entre le célèbre Nîmois Jean Pouillon et Marc Bernard. Alors, vous nous disiez, Alain, dans la première partie de cette émission, que il avait eu un engagement donc tout à fait normal dans les syndicats, au Parti communiste, où il avait été promu à une fonction importante, mais que, compte tenu de la montée de Staline, il s'en était retiré, mais il avait un engagement littéraire aussi assez marqué.
Oui, bien sûr. Bon, il lisait beaucoup. Hein. Bon, avec Jean Paulhan, évidemment. Avec Jean Paulhan, il a été aussi, il a eu un maître. Hein. Disons que Jean Paulhan lui indiquait des lectures. Ils échangeaient beaucoup leurs idées sur les livres qu'il lisait. Donc, il avait une bonne culture. D'ailleurs, il a été critique à la Revue Monde. Henri Barbus, qui avait créé la Revue Monde. En 1927, donc,
oui.
avait pris Marc Bernard d'abord comme secrétaire d'édition, mais ensuite, ben, rapidement, il est devenu critique de la revue, de la Revue Monde, hein, et un critique qui était devenu redouté, assez redouté.
Mais il n'était pas juif, mais il a été un peu menacé pendant la guerre, non?
Oui, bien sûr.
Donc, il a craint, en tout cas.
Alors, à la déclaration de guerre, bon, il a été déçu, il a déçu par ses idées, ses idées humanistes, hein, ses idées sociales auxquelles pourtant il était attaché. Il a été déçu par les syndicats, par la politique. Hein. Il a été déçu par la guerre d'Espagne. Disons, il est allé en Espagne pendant la guerre civile.
Oui.
Donc, il était correspondant de journaux. Bon, il a vu comment ça se passait chez les Républicains, avec les dissensions entre communistes, socialistes. Tout ça l'a fortement déçu. Et quand il a vu que la France s'écroulait, hein, lorsque l'Allemagne a envahi la France, hein, il a douté. Il a douté de tout ce qu'il s'est dit, mais tout à fait naturellement. Quoi, ça. Et il s'est dit, bon, ben, maintenant on a Pétain, ben essayons. Essayons Pétain. Le reste m'a déçu, entièrement. Bon. Alors il s'est un peu fourvoyé. Voilà. Alors il n'a jamais été, évidemment, dans la collaboration, ça, jamais. Mais si vous voulez, il a seulement dit... Essayons ces idées nouvelles.
Oui.
Bon, voilà, ça s'est limité à ça. Bon, ensuite, il a épousé une juive, une très belle juive d'ailleurs, avec qui il a vécu vraiment un amour extraordinaire.
Et vous avez une très belle page sur voilà.
Il était marié avec une juive. Hein. Bon, à Nîmes, il est venu à Nîmes, donc, pendant la guerre, hein, où il vivait tant bien que mal. L'épicière lui faisait crédit, un crédit illimité. Donc, il est vivé comme ça, en attente. Il était en attente un petit peu de ce qui allait se passer.
Mais il avait peur quand même
Oui, il a eu peur. Alors après, à un certain moment, en 1942, quand alors la zone sud a été envahie,
oui.
avec l'armée allemande qui est arrivée à Nîmes, et puis alors, il y avait un préfet qui était très collaborationniste, le préfet Schaap, qui était très... Alors donc, à ce moment-là, il s'est aperçu de ce qu'était, le national-socialisme, ce qu'était Vichy. Alors là, évidemment, il a tout à fait changé, il a rejeté ses idées, où il s'était un peu égaré idéologiquement, mais jamais en ne faisant quoi que ce soit. Et à ce moment-là, évidemment, les collaborateurs ont dû savoir qu'il n'était plus avec eux, plus du tout. Alors, c'était devenu risqué. Son épouse, qui était juive, ils se sont mariés à Nîmes, donc elle n'avait plus son nom qui montrait qu'elle était juive, elle est devenue Madame Bernard. Hein. Mais c'était risqué. Alors, heureusement, il a eu le prix Goncourt, entre-temps, grâce à Léo Larguet, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est Léo Larguet qui lui a permis d'avoir le prix Goncourt.
Oui, parce que Léo Larguet faisait partie du jury des
et
concours.
Le prix Goncourt lui a apporté un peu d'argent.
Oui.
Et avec cet argent, ils ont pu vite quitter Nîmes. Et en effet, deux, trois jours après, la Gestapo se présentait à leur porte.
Ah oui.
Donc, ça a été vraiment... C'est grâce à ce prix Goncourt et l'argent qu'il en a reçu qui lui a permis de partir... Alors, ils sont partis... près de Limoges, à Saint-Junien, un petit village, hein, qui était pas loin de Radour-sur-Glane.
Oui.
Il aurait pu aussi bien se retrouver à Radour-sur-Glane. Donc il a une vie romanesque. Oui. Toute sa vie s'est fait de choses extraordinaires.
Et il revient à Nîmes et là, il correspond pas mal avec Paulian.
Oui, il correspond toujours.
Et il meurt à Nîmes il n'y a pas très longtemps.
Voilà, donc il meurt à Nîmes en 1983, donc oui. Il est revenu les derniers mois.
Il était enterré où ?
Donc il est reparti enterré dans un cimetière parisien, donc où était enterrée son épouse Else Reichmann.
Oui.
Donc il n'est pas à Nîmes, non.
Si vous deviez recommander à quelqu'un de lire un livre de Larguet, de Marc Bernard, qu'est-ce que vous recommanderiez ?
Ben, je recommanderais Pareil à des enfants.
Pareil à des enfants.
C'est pas parce que c'est son prix Goncourt, mais c'est un magnifique livre sur l'enfance.
Oui.
Une enfance certes pauvre, même misérable, mais un enfant qui aimait sa mère. Il y avait un amour entre la mère et l'enfant. Et puis cet enfant qui voit sa mère dépérir, qui va mourir pratiquement, qui va mourir. Donc c'est un livre très touchant. Après, il y a aussi Salut camarade, où il montre sa préadolescence. Ouvrière à Nîmes.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans plusieurs des livres dont vous parlez, c'est qu'il parle de Nîmes. On redécouvre, on se sent chez soi dans ce livre.
Voilà. Donc si vous voulez les lire, il y a les livres sur Nîmes sont à lire, en effet.
Oui.
Ils sont à lire.
Donc, comme des enfants. Comme des enfants,
c'est ça. Pareil à des enfants.
Pareil à des enfants de Marc Bernard.
Ouais.
Bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Anna Arthus, d'être venu retracer la vie de cet homme si attachant qu'est Marc Bernard. Oui. On aurait pu, bien sûr, encore s'étendre sur ses rapports avec Jean Poyan, mais vous reviendrez peut-être nous en parler une autre fois.
Oui.
Parce que notre émission a des limites et qu'on l'arrête. Bien. En tout cas, bien. Bravo pour... Et bravo à l'éditeur de La Voix Domitienne, un très beau livre.
Et je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre studio.
Ça fait très plaisir. Merci Alain Arthus. Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus dans l'émission Au fil des pages qui se termine ainsi aujourd'hui.